Nous avons déjà découvert le métier d'infirmière de rapatriement. C'est maintenant celui d'infirmière en milieu hospitalier qui intéresse des élèves du dispositif ULIS et d'une classe de 3e du collège Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Madame Tecker, infirmière, est venue à leur rencontre.
Bonjour, nous sommes des élèves du dispositif ULIS et d'une 3e du collège Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Nous savons que votre métier est infirmière. Nous sommes intéressés par votre métier. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Merci d'être venu. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour à tous. Je suis Madame Tecker. Je travaille actuellement dans un établissement privé à HR. C'est un établissement de soins de suite et réadaptation.
En quoi consiste votre métier?
Alors, mon métier, c'est surtout surveiller l'état général des personnes soignées, appliquer les prescriptions médicales et faire des soins techniques.
Quels sont les types d'infirmières? Pourquoi y a-t-il plus de femmes que d'hommes dans ce métier?
Alors, une infirmière, elle travaille dans les établissements publics ou privés avec son diplôme, mais elle peut travailler ailleurs aussi en tant qu'infirmière de cadre, péricultrice, pratique avancée, infirmière anesthésiste, etc. Alors, pourquoi plus de femmes que d'hommes? Parce qu'en fait, le métier est né à l'époque médiévale, où ce sont d'abord les femmes religieuses qui ont commencé à soigner les personnes dans les hospices. Et après, c'était des religieuses, et de plus en plus, on pense que tout ce qui est l'empathie, la compassion, la passion, ce sont plutôt des qualités féminines. C'est pourquoi dans la mentalité, on pense que c'est un travail féminin, mais de plus en plus, il y a des garçons aussi qui s'y intéressent.
Y a-t-il des tenues spécifiques? Quelle est la vôtre? Pouvez-vous la personnaliser?
Alors oui, nous avons des tenues pratiques. Ce sont des tenues blanches, généralement une tunique et un pantalon qui nous permettent de travailler tranquillement.
Dans quel service travaillez-vous? Vous travaillez depuis quand dans ce service?
Alors là, actuellement, je travaille de nuit en 12 heures dans un établissement de soins de suite et réadaptation. C'est généralement des personnes qui sortent d'hôpital mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux et qui ont des soins spécifiques, mais en pneumologie particulièrement.
Quels sont les autres services où on peut trouver une infirmière?
Alors, on va y revenir, mais comme je vous ai dit, on peut travailler dans un service de chirurgie, dans un établissement public comme là. On peut travailler avec les enfants comme péricultrice, on peut travailler avec les personnes âgées. En fait, le champ de travail est très, très, très large pour une infirmière.
Depuis quand avez-vous décidé de faire ce métier? Est-ce que c'était un rêve d'enfant?
Alors, à vrai dire, ce n'est pas un métier d'enfant, de rêve d'enfant, parce que je voulais devenir prof. Mais quand j'étais en troisième, alors il faut savoir que moi, je suis pas née en France. Donc j'ai fait ma scolarité dans un autre pays. Quand je suis arrivée, mon français n'était pas suffisant. Donc les professeurs me faisaient confiance. Ils m'ont dit, dans un premier temps, tu vas faire un BEP carrière santé sociale. Et comme ça, tu vas travailler davantage ton français. Et avec ça, tu vas permettre d'aller en première d'adaptation. Et tu vas progresser et après tu vas avoir ton bac. Et c'est ce qui permet après de passer dans la filière pour être infirmière. Et c'est ce que j'ai fait.
Quel poste avez-vous fait avant d'être infirmière?
Alors après le bac, j'ai fait directement le travail d'infirmière, mais j'ai fait quand même des petits jobs dans le service, dans une maison de retraite, qui m'a permis de confirmer mon choix. J'ai travaillé en tant qu'agente de service hospitalier où j'ai fait le ménage et j'ai servi le petit déjeuner. Ça m'a permis d'observer le milieu et ça m'a permis du coup d'aimer, de m'attacher un peu à ce métier-là.
Quel est votre parcours scolaire?
Mon parcours, donc du coup, c'est le collège. Après, BEP carrière santé sociale qui se prépare en 2 ans. Et après, il fallait avoir des notes, de meilleures notes pour passer en première d'adaptation. Donc j'ai fait première d'adaptation au lycée et après j'ai eu le bac SMS qui n'existe plus, c'est SMS sciences médico-sociales. Et là, en dernière année, j'ai passé le concours d'infirmière qui n'existe plus non plus. Et ça m'a permis d'aller au NIFSI, dans un institut de formation en école d'infirmière. Et ça se prépare du coup en 3 ans. Alors, il y a une autre filière pour devenir infirmière. Si on est aide-soignante et on justifie de 3 ans de travail dans un poste hospitalier, par exemple, on peut faire validation des acquis et rattraper la filière infirmière.
Quelles sont les matières qui sont importantes pour faire ce métier?
Toutes les matières sont importantes parce que quand on sera diplômé, on est amené à, quand on est sur le terrain, Il va falloir s'exprimer, écrire, remplir les dossiers. Donc, le français est important. Il faut avoir un minimum de connaissances pour parler avec les patients, pour s'intéresser. Donc, il faut avoir un minimum de culture générale et les calculs de doses. Donc, d'où l'importance des mathématiques. Mais rien n'est... En fait, tout est faisable, en fait. Avec un peu de motivation, vous pouvez y arriver.
Quelle spécialité faut-il suivre à partir de la première en lycée général pour pouvoir faire ce métier?
Alors, la spécialité à suivre, c'est surtout SVT, sciences de la vie et de la terre. Parce que du coup, les notions, on va les reprendre en école d'infirmière. Alors, il y a le lycée général et technologique, mais surtout le SVT est important. Mais il y a aussi le bac pro d'accompagnement, soins et services de la personne qui se prépare sur 3 ans.
Quel diplôme avez-vous?
Alors, quel diplôme j'ai? Alors, j'ai un BEP, carrière d'intérêt social. J'ai un bac SMS, sciences médico-sociales. J'ai un diplôme d'état d'infirmier que j'ai préparé du coup en 3 ans. Et maintenant, depuis 2019, ça nous permet de donner la licence. Et cette licence universitaire nous permet d'aller plus loin si on veut.
Qu'est-ce qu'une licence? Donc une licence, c'est 3 ans après le bac.
Quelles sont vos formations? Combien de temps ont-elles duré?
Mes diplômes, mon parcours. Donc, moi, j'ai fait un bac SMS, sciences médico-sociales, en étant passé par la première d'adaptation. Ça n'existe plus actuellement. Ça s'est remplacé par la filière technologique, pareil, ST2S. Mais on peut très bien passer aussi un bac pro, accompagnement en soins et services à la personne, sur 3 ans, qui nous permet aussi d'avoir le diplôme d'aide-soignant, diplôme d'auxiliaire de périculture et d'autres domaines paramédicaux. Mais ça peut aussi nous permettre de constituer le dossier pour aller en école d'infirmière, qui se prépare aussi du coup sur 3 ans. Il y a une partie théorie, il y a une partie pratique sur les lieux de stage.
Y a-t-il des stages à faire?
Alors oui, il y a des stages obligatoires à faire qui sont étalés sur 3 ans. Première année, deuxième année, troisième année. Au total, il faut 60 semaines, soit 6 stages par semestre.
Quelles sont les qualités pour faire vos métiers?
Alors, il faut avoir plusieurs qualités, mais c'est surtout les qualités humaines et relationnelles. Il faut avoir beaucoup de respect, l'empathie, la patience, l'honnêteté, capacité d'écoute et un sens d'observation pour mieux comprendre les besoins des patients et du coup mieux adapter les soins.
Avec qui travaillez-vous?
Alors, moi, comme je travaille la nuit, on est en équipe réduite, personnel réduit. Donc là, actuellement, je travaille avec une aide-soignante uniquement. Mais pour les collègues qui travaillent de jour, c'est une équipe pluridisciplinaire où il y a plusieurs spécialités, donc plusieurs personnels qui s'occupent d'une même personne.
C'est quoi les aides-soignantes?
Alors, c'est une bonne question parce que moi, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit que je vais vous dire d'ailleurs. Aide-soignante, c'est un diplôme qui se prépare en 1 an et demi après le bac. On peut le faire aussi après BEP carrière santé sociale avec un concours, mais c'est un travail pour permettre de s'occuper des personnes au quotidien. Ça va être la surveillance de l'état général, ça va être les soins de nursing surtout. C'est surtout la prise en charge au quotidien, en fait, l'alimentation, le nursing, protéger le patient, tout ça. Et en fait, moi, je travaille surtout avec les aides-soignantes, parce que du coup, ça fait partie de mon travail de base. Je suis responsable des aides-soignantes. On travaille en binôme. Et on travaille aussi beaucoup avec les informations que les aides-soignantes nous donnent. C'est surtout les aides-soignantes, en fait, qui alertent les infirmières, qui après voient le patient, et après qui alertent aussi le médecin. D'où l'importance du métier d'aide-soignant. Et d'ailleurs, si vous faites, par exemple, l'école d'infirmière, et vous faites une première année et qu'après vous ratez, vous avez envie d'arrêter, vous pouvez très bien demander à la région votre diplôme d'aide-soignant. C'est automatiquement donné après la première année. C'est beaucoup de prise en charge au quotidien, les toilettes, les couches, etc. Mais il faut savoir que quand on est infirmière, c'est notre travail de base. Il faut qu'on soit nous aptes à s'occuper de savoir faire ce métier-là, pour aussi faire le métier d'infirmière à côté. Donc, on est beaucoup, surtout en première année, quand on est école d'infirmière, on est beaucoup amené aussi à faire des toilettes, justement, pour apprendre à travailler en tant qu'aide-soignante, apprendre aussi à connaître les problèmes, justement, pour signaler aux médecins. Ça peut être des problèmes cutanés, ça peut être des escarres, Ça peut être justement que le patient, il manque d'air, donc il va être bleu. En fait, on nous apprend la première année le travail d'aide-soignante. Et pour ça, il faut être au plus près du patient. Donc, dans tous les cas, en tant qu'infirmière, des fois, parfois, on est amené à avoir des choses beaucoup plus graves. On est avec des sécrétions, les vomissements, les urines, les selles, le sang, j'ai dit, des pansements avec une grosse infection. Donc, le travail d'aide-soignant n'est pas, en gros, le plus sale, en fait. Alors, dans les hôpitaux ou les services médico-sociaux, on travaille en équipe. En fait, on ne voit rien l'un sur l'autre. On a tous besoin l'un de l'autre. On a des médecins qui prescrivent, les infirmières qui appliquent les prescriptions et la surveillance, les aides-soignantes qui sont auprès des patients, qui recueillent les informations, qui alertent. On a les diététiciennes aussi qui s'occupent de l'alimentation du patient. On a les kinésithérapeutes qui travaillent la rééducation, les équipes ergothérapeutes. En fait, on a plein de travail, de travailleurs, les secrétaires aussi qui gèrent les rendez-vous externes. On a les gens qui font le ménage, ça c'est très très important, les personnes qui font le ménage, qui font un travail extraordinaire, et sans eux, on peut être infecté, les patients peuvent être infectés. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui font tourner un hôpital.
Travaillez-vous de nuit ou de jour? Avez-vous des pauses? Pouvez-vous être remplacé?
Alors, je travaille de nuit, sur 12 heures. Normalement, on a un planning qu'on gère, on travaille par roulement. Quand nous sommes là, nous travaillons. Quand nous ne sommes pas là, nous avons notre collègue qui prend le relais. Et si nous sommes malades ou si nous sommes absents, nous sommes remplacés par une collègue. Et parfois, malheureusement, ils ne trouvent pas de collègue. Et à ce moment-là, il nous arrive de gérer le service.
Comment vous vous organisez pour suivre tous les malades?
Alors, comment nous suivons les malades? Déjà, quand nous commençons, nous prenons le service, nous commençons par des transmissions. Donc, ce sont les transmissions qui viennent des collègues sur tout ce qui s'est passé la journée. Et du coup, on voit là les priorités, l'état des patients, par qui on doit commencer. Mais on a surtout un outil qui nous permet de travailler. On va y revenir plus tard.
Comment réagissez-vous devant une urgence vitale? Faites-vous les premiers soins?
Alors, l'urgence vitale, ça dépend de la gravité de l'urgence. Donc, déjà, il faut savoir que nous, les professionnels, et d'ailleurs les personnes qui s'occupent du personnel, comme votre prof, ils sont obligés aussi de passer un test de formation aux soins d'urgence, niveau 1. Mais nous, vu que nous sommes des professionnels, nous sommes obligés de passer le même test qui s'appelle AFGSU. C'est une attestation de formation aux gestes de secours, niveau 2. Et renouvelable régulièrement. Il faut qu'on soit déjà apte. Et du coup, selon l'état du patient, alors il faut voir si le patient il est réactif. On essaye de prendre les constantes. Et selon l'état du patient, on évalue et on appelle le médecin ou parfois le SAMU quand c'est plus grave.
C'est quoi les constantes?
Alors, nous nous basons surtout sur des paramètres vitaux. Ça va être la tension de la personne, ça va être la température de la personne, ça va être les battements du cœur, ça va être un autre paramètre. En fait, ça nous permet de voir l'état général du patient, la respiration, la fréquence respiratoire. Ça nous permet de voir si le patient il respire bien, si son cœur il bat normalement, si la circulation sanguine se fait bien. En gros, c'est ça. Et ça nous permet de voir du coup la gravité du malade. Et ça, c'est très important en cas de prise en charge du patient au quotidien.
Et si vous avez une urgence devant vous, est-ce que vous appelez direct vos collègues ou les pompiers ou vous gérez vous-même?
Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça dépend vraiment de la gravité d'une urgence. Nous, on essaye de différencier une petite urgence, en gros, et une grosse urgence. Petite urgence, ça va être quoi? Ça va être une tension très élevée, par exemple. À ce moment-là, on a des médicaments sous la main. Si le médecin a déjà prévu que ce patient fait une hypertension, par exemple, on a ce qu'il faut. On gère d'abord, on surveille, on stabilise le patient et après, on prévient le médecin, par exemple. Ça peut être les problèmes de sucre, de diabète, un dérèglement de diabète. Ça, c'est sont des petites urgences qu'on peut gérer nous-mêmes. Bien sûr, on prévient le médecin, mais c'est gérable. Et après, ce sont les grosses urgences. Par exemple, ça va être une hémorragie, ça va être une chute. avec risque de traumatisme crânien. Et à ce moment-là, si on ne peut pas gérer, on essaie bien sûr de sécuriser le patient, de s'occuper du patient tout de suite, mais on prévient aussi le médecin, on appelle les pompiers bien sûr et le SAMU pour le faire transporter si on n'a pas de service de réanimation sur place.
Avez-vous le matériel suffisant pour faire tous les soins?
Alors, selon le lieu de travail, nous avons du matériel spécifique. Moi, par exemple, dans mon service de pneumologie, je vais avoir du matériel général pour justement les contrôles des paramètres et faire les pansements, les médicaments de base. Mais je vais surtout avoir du matériel spécifique à la pneumologie. Ça va être des machines qui nous permettent de respirer la nuit. Ça s'appelle la VNI, par exemple. L'oxygène. En fait, c'est les hôpitaux. Nous avons des pharmacies qui se trouvent au sous-sol. Donc, quand on fait les commandes une fois par semaine, ce sont les pharmaciens qui nous livrent le matériel, que ce soit les médicaments ou le matériel pour faire des pansements, par exemple. Et oui, on a du matériel nécessaire.
Est-ce que vous pouvez attraper une maladie de l'un de vos patients?
Alors oui, ça, c'est une question pertinente, surtout de nos jours, après ce qui s'est passé. On a des maladies infectieuses et transmissibles. On est constamment exposé à ces maladies infectieuses, ou par manuporté, donc par le geste directement, ou par les gouttelettes, ou par l'air. Donc oui, on est exposé. Mais on a ce qu'il faut, on a les conditions nécessaires pour se protéger au maximum. On a du matériel, par exemple, et les gestes qu'il faut respecter pour éviter justement de se contaminer.
Est-ce que vous avez des patients agressifs ou désagréables? Si oui, comment gérez-vous cette situation?
Alors oui, nous sommes parfois face à des patients qui peuvent être agressifs verbalement ou physiquement. Mais il faut savoir que quand vous faites la formation d'infirmière, on nous apprend à recevoir aussi cette agression. C'est-à-dire que d'abord, en fait, les gens qui sont agressifs, c'est surtout des gens qui ne sont pas bien moralement ou des gens qui ont des maladies mentales. Donc, on essaie surtout de comprendre pourquoi il est agressif. Et s'il y a une souffrance derrière, on essaie d'être au contraire plus disponible, d'essayer d'apaiser la personne d'abord. Et si on a des médicaments, il y a des médicaments qui sont prescrits, je vais te répondre. Il y a des médicaments qui sont prescrits, ce sont surtout des anxiolytiques qui permettent de calmer le patient. Donc, on essaie du coup de faire face par le relationnel, par les médicaments. Et parfois, si nécessaire, on transfère le patient au service de psychiatrie si vraiment il y a une maladie lourde.
Est-ce que vous avez des Alzheimer?
Normalement, les personnes Alzheimer, ils sont dans des unités spéciales, dans les maisons de retraite ou dans les services de gérontologie spéciales, parce que c'est une maladie à part, c'est une maladie très complexe. Et parfois, malheureusement, si on est dans un service de médecine, étant donné que ce sont surtout des personnes âgées qui ont des maladies, donc ils peuvent venir pour une maladie quelconque, une hypertension, diabète, mais à côté de ça, ils ont quand même leur maladie d'Alzheimer. C'est très courant, oui, malheureusement.
Les infirmières sont-elles quelquefois seules dans leur service? Si oui, quels sont les moyens de sécurité des services?
Alors oui, malheureusement, parfois nous nous retrouvons seuls. Des fois, en cas d'absence des collègues, parfois elle n'est pas remplacée si elle prévient au dernier moment. Donc parfois, on est obligé de gérer la situation. Donc on s'occupe de nos patients, on essaie d'appeler les étages pour voir si les collègues peuvent venir nous aider. Donc s'il y a une situation d'urgence et si on parle des cas d'agressivité, nous, dans notre établissement, on a mis en place un téléphone avec un bouton rouge où, en cas d'urgence, on peut appuyer sur le bouton et ça sonne sur les autres étages. Du coup, les collègues peuvent venir nous aider.
Utilisez-vous des logiciels et du matériel informatique?
Alors oui, de plus en plus, les dossiers médicaux sont sur ordinateur. Dans les établissements, que ce soit médical, médico-social, maison de retraite, il n'y a plus beaucoup de dossiers papier. On s'occupe beaucoup on travaille beaucoup avec l'ordinateur, donc ce sont des ordinateurs portatifs comme vous avez là en classe et des ordinateurs fixes. Et nous avons tous une session avec un identifiant mot de passe de chacun pour accéder au dossier. Et nous utilisons un logiciel qui s'appelle chez nous Hôpital Manager.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier?
Alors il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients aussi. Alors les avantages, c'est la variété, c'est la multiplication du choix. En fait, on a un champ d'action très, très divers. On peut s'occuper des petits, des adultes, des jeunes, des personnes âgées. On peut avoir des soins techniques, théoriques, orales, En fait, on peut travailler sur plusieurs lieux différents, avec plusieurs publics différents. Et les inconvénients, c'est surtout les horaires décalés. Parfois, on est amené à travailler 12 heures. Parfois, on est amené à travailler la nuit. Parfois, ça va être le week-end ou le nouvel an ou à Noël. Donc, c'est surtout le décalage par rapport aux personnes.
Comment s'appelle l'examen qui consiste à introduire une caméra à l'intérieur du corps?
Alors, ça s'appelle l'endoscopie. Ça peut être par la voie haute, fibroscopie, ou voie basse, coloscopie. Et ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'on peut parfois faire des prélèvements, enlever une partie de peau et faire des examens avec ça.
Je reviens sur la question de l'endoscopie. Est-ce que vous nettoyez les machines?
Alors ça, c'est une question pertinente aussi. Moi, en tant qu'infirmière, je ne nettoie pas les machines, mais il y a des collègues qui sont particulièrement des aides-soignantes qui travaillent justement dans ces services-là, en service de stérilisation par exemple, qui s'occupent de ce genre de travail.
À quoi ce métier est-il difficile?
Alors, en tant qu'infirmière, on peut chacun avoir son avis sur la spécificité, sur les difficultés. Mais moi, pour ma part, ce qui a été le plus difficile, c'est que nous sommes amenés à soigner des personnes malades physiquement ou psychologiquement. Donc, parfois, on est amené à avoir des décès, à gérer les décès, à gérer son entourage. Et c'est beaucoup de tristesse, en fait. Donc, tout est... Enfin, on vit des moments très, très agréables. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de bons moments avec les patients, mais on est beaucoup témoins de tristesse, des histoires de familles lourdes, des précarités, des décès. C'est surtout ça qui a été le plus difficile pour moi.
Quels sont les risques de votre métier?
Alors, le risque du métier, c'est surtout qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On s'occupe des personnes, leur vie est entre nos mains. On doit être rapide, efficace. Et parfois on se met en danger aussi, c'est-à-dire qu'on peut se piquer, s'infecter, se faire agresser.
Quelles sont les conséquences d'une erreur?
Alors, l'erreur est humaine. On n'a pas le droit à l'erreur, mais malheureusement, parfois, il arrive qu'on fasse des erreurs parce que des fois, on est trop fatigué ou des fois, on ne connaît pas le lieu de travail, le matériel, tout ça. Ça dépend du niveau de la gravité. Si c'est une erreur dans laquelle on peut se rattraper, par exemple, c'est déjà arrivé qu'une de mes collègues s'est trompée d'injection d'insuline, par exemple. Elle a donné une grosse dose à un patient. Donc, si on le laisse comme ça, il peut aller vers le coma. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prévient le médecin et on essaye de contrer l'effet. Donc, l'insuline, ça fait baisser le sucre. Nous, on fait quoi? Ben, on donne du sucre à fond, pour essayer de maîtriser le niveau de sucre, par exemple. Alors, concernant les erreurs, donc on prévient surtout le médecin. Il ne faut rien cacher. C'est d'où l'honnêteté du métier. Il ne faut rien cacher, justement, pour le bien-être du patient. On essaie de rattraper au mieux, on appelle le médecin. Mais vraiment, si c'est une erreur qui peut être fatale ou qui est faite par manque de volonté, par exemple, là, on peut être sanctionné, on peut nous retirer notre diplôme, voire la prison, mais c'est vraiment le rare des cas.
Quelles sont les évolutions dans votre métier?
Alors, on peut faire une réorientation ou reprendre les études pour avancer encore plus. On peut travailler, par exemple, dans un bloc opératoire. C'est 2 ans de plus qu'infirmière. On peut être sage-femme, pareil. On peut être infirmière péricultrice, 1 an d'études supplémentaires pour s'occuper des bébés. Il y a d'autres choses, mais c'est principalement cela. Et on peut devenir aussi cadre ou formatrice dans un IFSI ou gérer son équipe dans un service hospitalier si on obtient justement la formation de cadre.
Pourquoi une cadre?
Alors, une cadre, en gros, c'est une chef d'équipe. C'est une personne qui est responsable du service de soins, particulièrement, qui gère son équipe, qui gère les plannings, qui gère le matériel, qui gère les soins, les problèmes relationnels et qui est là pour aussi faire appliquer les règles au sein de l'établissement.
Peut-on travailler à l'étranger? Si oui, comment postuler ou envoyer sa candidature?
Alors oui, on peut travailler à l'étranger. Étant donné que la France fait partie de l'Union européenne, notre diplôme est directement reconnu dans les pays de l'Union européenne, mais aussi dans les pays qu'on appelle AELE. Ce sont des pays qui se trouvent géographiquement dans l'Europe, mais qui ne font pas partie. C'est comme la Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein. Généralement, les collègues choisissent ces pays-là parce qu'apparemment, c'est mieux payé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'enregistrer auprès des autorités sanitaires pour commencer à travailler. Mais on peut aussi travailler ailleurs dans le monde, par exemple le Canada, les États-Unis ou dans quelques pays du Golfe, du Moyen-Orient, où le métier est très, très recherché de plus en plus avec les problèmes sanitaires. Mais pour ces pays-là, surtout, il faut savoir parler anglais. Alors, en parlant du poste à l'étranger, on peut très bien devenir infirmière de rapatriement ou infirmière militaire pour justement faire des missions à l'étranger, ou infirmière aussi dans les organisations comme Médecins du Monde, Sans Frontières, pour justement faire le lien ou apporter notre aide, notre soutien dans les pays étrangers.
Quel conseil nous donneriez-vous pour nous convaincre de faire votre métier?
Alors, les conseils que je vais vous donner, surtout, c'est surtout mon vécu, mon expérience personnelle, c'est qu'il faut d'abord se faire confiance en soi, de retrouver les ressources en soi, d'avoir des objectifs personnels. Vous êtes tous capables. Il faut ressortir ça en vous. Vous êtes tous capables. Il ne faut pas écouter les autres. D'après ce que j'ai, en fait, je parle aussi par mon parcours personnel, mais par rapport à mes copines qui étaient aussi en BEP, on pensait qu'elles ne pouvaient pas réussir et au final elles se sont accrochées. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis de BEP qui sont devenus infirmières. On doit être à peu près 10, même pas 15, par contre, pas 15, à être infirmière ou même cadre de santé dans un établissement. Donc, les ressources, d'abord, c'est vous, c'est la motivation et bien sûr le travail régulier.
Merci de nous avoir expliqué votre métier. Nous sommes très heureux de vous avoir eu dans le dispositif ULIS.
Bravo! Je vous remercie infiniment de m'avoir invité aussi. Ce fut un vrai plaisir d'avoir pu témoigner et si je j'ai pu vous aider, ce fut vraiment un grand plaisir. Merci à vous et les questions sont très pertinentes. Bravo à tous.